Je suis le patriarche des arbres. Je viens vous parler de pérennité et d'éternité. Je vous apporte vigueur et force. Vieillir n'est pas un drame, bien au contraire. C'est la saison de la réflexion, de la mesure et de la plénitude. Contemplez mon feuillage sous la lumière, on dirait une pluie d'étoiles. Voyez comme je suis élancé, fin, élégant, lumineux. C'est parce que j'aime la vie et que la vie me le rend bien. Souvenez-vous des jours anciens, de ce que vous avez découvert, appris, aimé, créé. Transmettez à autrui vos expériences et vos souvenirs, votre connaissance et vos observations. Cela est précieux et combien essentiel. Mes feuilles vert clair ont la forme d'un cœur. Je suis un arbre éternellement amoureux. Écoutez votre cœur, ce que ces battements vous murmurent de doux, de tendre, d'affectueux. Le temps est venu de vous reposer, de ralentir, d'aller à un autre rythme. Goûtez les joies de cette nouvelle saison. Elles seront riches, délicates, paisibles et adoucies.
Chronique amoureuse des plantes mal aimées. Présentée par Lo, une passionnée des rituels et des plantes, et une naturopathe, Aurélie d'Aïla Naturo.
Mauvaise graine.
Bonjour, nous allons vous parler de deux plantes originaires du Japon, de l'arbre aux 40 écus,
de l'arbre aux abricots d'argent,
du noyer du Japon, c'est-à-dire le ginkgo, de son nom latin, ginkgo biloba.
Mais aussi, nous allons vous parler de la canne du Japon,
canne du tigre,
l'hôte douleur,
renouée cuspide, c'est-à-dire la renouée du Japon, de son nom latin, Fallopia japonica.
Donc nous avons deux étymologies complètement différentes, puisque ginkgo vient du japonais jinkyo, qui est en fait la forme japonaise du mot chinois yingxing, qui signifie abricot d'argent. Alors ce nom a été répertorié par Kempfer sous la graphie ginkgo avec un G, mais il aurait dû écrire ginkyo pour correspondre complètement au japonais. Et aussi, l'épithète biloba fait référence à la forme caractéristique des feuilles, c'est-à-dire fendue en deux lobes. Pour la renouée du Japon, elle possède deux noms, eh oui, Renoutria japonica, qui est un nom dédié à Renoutre, un naturaliste français du XVIe siècle, mais aujourd'hui, on l'appelle plutôt Fallopia japonica, qui est un nom dédié à l'anatomiste et botaniste italien Gabriel Fallop. Le nom vernaculaire renoué évoque les tiges plusieurs fois nouées.
Et alors moi, je vais aborder la partie botanique et on va commencer par le ginkgo, qui est le plus vieil arbre de la Terre. Son origine remonte à plus de 200 millions d'années, c'est-à-dire qu'il a connu les dinosaures. Il a survécu à des catastrophes comme Hiroshima, quand même. Il est le dernier représentant d'une famille botanique préhistorique, les Ginkgoaceae, et peut vivre plus de 3000 ans. Il résiste à tout, les maladies, aux parasites, à la pollution, au gel ou à la foudre. A priori, il serait encore présent à l'état sauvage, mais uniquement dans la zone montagneuse en Chine. Il est facilement reconnaissable à sa jolie feuille en forme d'éventail qui devient jaune à l'automne.
Mais savez-vous qu'il s'agit en réalité seulement de la feuille mâle qui est en éventail?
Oui, en fait, la feuille femelle, elle n'a pas de fente au milieu. Et il faut savoir que c'est un arbre dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des arbres mâles et des arbres femelles. Et seule la femelle porte les fruits à l'odeur fort désagréable.
En fait, ce ne sont pas des fruits, seulement des graines. Et ce faux fruit est un mets délicat très apprécié des Asiatiques.
Alors, une autre particularité, c'est les cellules du ginkgo qui contiennent une algue endosymbiotique. C'est le seul qu'on connaisse qui pratique ce type de symbiose entre une micro-algue et une plante. Maintenant, je vais aborder aussi la renouée. Donc, celle-ci, c'est une vivace herbacée qui est de la famille des polygonacées, dans laquelle on trouve aussi des plantes plus connues comme le sarrasin ou l'oseille. Polygonum, ça veut dire à plusieurs genoux, une allusion aux tiges marquées de nœuds proéminents. Elle est originaire de Chine, du Japon, de la Corée et de Taïwan. Elle pousse plutôt sur des plaines inondables, surtout des berges riches en gravier ou sur les flancs de volcans qui sont riches en métaux. Les feuilles sont ovales à triangulaires est placée en alternance sur les tiges. Les tiges, elles, sont épaisses, lisses, creuses et ressemblent plutôt à du bambou. Elles sont souvent rougeâtres. Elle est facilement reconnaissable grâce à ses gaines appelées ochréas qui entourent la tige au-dessus de chaque nœud. Ce sont des petits manchons qui protègent les bourgeons. Les racines de la renouée sont très puissantes. Elles peuvent pousser de plusieurs centimètres par jour et aller jusqu'à une profondeur de 3 mètres et s'éloigner du plant d'origine jusqu'à 7 mètres.
C'est incroyable la vigueur de cette plante.
Et oui, et pour la floraison, elle est tardive. Elle a lieu en août-septembre. Les fleurs sont blanches et réunies en grappes. Les graines, elles, mûrissent à l'automne. Elles sont en forme de triangle, comme pour le sarrasin. En France, les graines sont peu fertiles. Seule l'espèce hybride de Fallopia et de Bohemica donne des graines parfois fertiles. Et la dispersion de la plante par la graine est rare en dehors du Japon. En fait, la reproduction se fait surtout par multiplication végétative, par l'intermédiaire de rhizomes, c'est-à-dire des racines horizontales.
Alors, nous allons passer à la partie sur les croyances et les mauvaises réputations. Alors, pour cette partie, nous allons surtout vous parler de la renouée du Japon. En effet, le ginkgo est un arbre plutôt aimé. La seule mauvaise réputation est celle de ses graines qui ont une odeur très forte et font un tapis collant et glissant en automne. Et donc, c'est pour cette raison que l'on plante essentiellement des arbres mâles dans les villes, qui sont très faciles à bouturer en plus, mais c'est un peu dommage pour la diversité génétique.
Et pour la petite histoire, à Rouen, chaque année à la même période, les arbres de l'avenue Pasteur parfument le quartier de la préfecture d'une odeur bien désagréable. Et apparemment, les services techniques de Rouen connaissaient la particularité du ginkgo quand ils ont végétalisé l'avenue. Et pour éviter ce désagrément olfactif, la mairie avait bien passé commande d'arbres uniquement mâles auprès du pépiniériste néerlandais. Malheureusement, sur les 41 arbres, il y en a 19 qui étaient des femelles.
Ça fait du boulot pour les gens qui nettoient les rues, en fait. Passons à la renouée du Japon, qui, pour sa part, a une réputation sulfureuse dans de nombreux pays. En effet, elle est considérée comme une peste végétale, carrément. Les renouées du Japon font même partie des 100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde, une liste publiée par un groupe de spécialistes de la Commission de la sauvegarde des espèces et de l'Union mondiale pour la nature.
Et oui, on entend souvent dire que l'invasion des renouées a provoqué une perte de biodiversité ou encore que la renouée va envahir notre flore locale. Elle est souvent accusée de prendre la place donc des plantes indigènes et de détruire les berges de nos rivières. En réalité, certains écologues remettent en question ces croyances. Car comme toujours, on préfère accuser la plante plutôt que de voir ce qu'elle pointe du doigt, c'est-à-dire des environnements dégradés. Elle pousse très souvent dans des plaines alluviales dégradées par des aménagements hydrauliques ou encore après la destruction d'une forêt. En plus, les excès de nitrates et de phosphates issus des activités agricoles contribuent à favoriser la croissance de la renouée. On pourrait même dire que c'est une plante bio-indicatrice de la surexploitation humaine des sols et indicatrice de pollution des sols aux métaux lourds.
L'histoire de la renouée du Japon commence au Moyen-Âge. Et paradoxalement, pendant plusieurs siècles, on va tenter de l'implanter en Europe, que ce soit comme fourrage des animaux en période de sécheresse ou pour ses fleurs tardives pour les apiculteurs, mais sans succès pendant tous ces siècles.
Et ce n'est que récemment, au milieu du XXe siècle, que la renouée prolifère. Elle s'est répandue sur les terrains remaniés, le long des axes routiers et des voies ferrées et le long des cours d'eau. Les activités humaines comme le déplacement de terre à l'occasion de travaux contenant des graines et des rhizomes sûrement issus des implantations antérieures se sont développées dans les zones dégradées, pauvres en biodiversité ou contaminées aux métaux lourds.
Il faut dire que c'est une plante qu'on appelle pionnière. Elle s'implante en première sur des zones impropres aux végétaux, prolifère, prépare le terrain pour les autres plantes à l'assainissant et au bout d'un certain cycle qui peut sembler trop long pour nous les humains. Les arbres et les arbustes locaux reprennent le dessus et repoussent tranquillement.
Peut-être qu'elle fait peur aussi à cause de sa capacité de régénération qui est considérable, parce qu'elle est en mesure de soigner ses tissus ou de faire repartir une nouvelle pousse à partir d'un morceau insignifiant. Rappelons qu'elle peut produire des quantités énormes de biomasse, aussi bien racinaire, environ 16 tonnes par hectare, qu'aérienne, environ 13 tonnes par hectare.
Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Elle est aussi intéressante pour les insectes, car elle fleurit à la fin de l'été, alors que la plupart des fleurs sont fanées, et en plus, elle produit énormément de fleurs. Aux USA, des apiculteurs entretiennent la renouée du Japon pour produire ce qu'ils nomment le miel de bambou.
Et il paraît que c'est un super goût de litchi.
À goûter donc. En plus, la renouée est métallophyte, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de nutriments classiques, normal, mais également de métaux lourds. C'est pourquoi on la retrouve sur les friches industrielles. Elle a même un petit penchant pour l'aluminium. Donc elle est devenue pour ça une excellente indicatrice de pollution des terrains. Et le plus surprenant, c'est que même si elle pousse en terrain pollué, elle n'en contient pas elle-même. C'est-à-dire qu'on peut la consommer sans inquiétude, car oui, c'est une plante qui a bon goût. Donc on vous proposera quelques recettes en fin de podcast.
Donc si on souhaite enrayer sa propagation, plutôt que de l'arracher, il faut plutôt restaurer le milieu et l'écosystème alluvial. Pourquoi pas planter des boutures de saule ou des plantes de ripisylve comme le noisetier, l'aulne ou le frêne. Il ne sert en tout cas strictement à rien de l'arracher ou de la couper car on va juste stimuler sa croissance et sa propagation. Je propose, si on souhaite arracher des rhizomes, de le faire pour un but médicinal, parce que, on verra tout à l'heure, elle a de nombreuses vertus. Nous venons d'entendre la chanson Miyuizuka Anene par le groupe Oki. Et maintenant, passons à la partie symbolique.
Pour cette partie symbolique, je vais essentiellement vous parler du Jinko. En effet, pour les Chinois, la terre natale du Jinko, il est axe du monde, comme de nombreux arbres. Il est considéré comme sacré et il est vénéré comme un dieu. Il est arbre de vie et il protège. Une légende raconte que la fille de l'empereur du ciel se serait changée en Jinko pour échapper à ses poursuivants. Traditionnellement, il était planté près des monastères bouddhistes de par son caractère sacré, mais aussi car on pensait que les Jinko étaient capables de conjurer le feu et d'éviter les incendies.
Et sans doute pour ses propriétés médicinales.
Je pense que les moines s'en servaient aussi pour se soigner. D'ailleurs, les autels de ces temples sont faits en bois de Jinko. Il est aussi synonyme de longévité, d'immortalité et de résistance. Mais aussi mémoire du passé, car comme on va le voir dans les propriétés médicinales, c'est au niveau de la mémoire qu'il agit. Et aussi d'espérance et de vie à venir. Il est considéré par les Chinois comme parfait, car il conjugue le yin et le yang. Les guérisseurs taoïstes lui vouaient aussi un culte. Ils en font des talismans comme protection contre les démons et pour attirer les chen, c'est-à-dire les esprits bienveillants. Traditionnellement, les amandes de ces fruits sont consommées grillées dans de nombreuses cérémonies, notamment la cérémonie du thé ou les mariages. Et d'ailleurs, petite anecdote, la coiffure traditionnelle des mariés est dite en forme de jinko.
Et il me semble qu'il est aussi important pour la culture japonaise.
Bien sûr, il est arrivé beaucoup plus tard au Japon. Et là, il n'était planté que près des temples bouddhistes et shintoïstes. On ne les trouvait que là. En plus, on considérait qu'en l'entourant d'une corde de riz, il était capable d'éloigner les mauvais esprits. Pour les Japonais, il est lié aux samouraïs, car il représente la loyauté et la promesse d'immortalité s'il faisait preuve de vaillance au combat. D'ailleurs, il est encore lié aux lutteurs de sumo. Les plus connus et les plus vaillants ont le droit de se coiffer avec un chignon en forme de jinko. Les nourrices considéraient cet espace comme un porte-bonheur, étonnamment. Parce qu'au printemps, le jinko se couvre d'excroissances appelées chichi, et elles pensaient qu'elles auraient davantage de lait grâce au jinko à cause de cette particularité. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, allez voir sur Internet ces photos de chichi, c'est étonnant comme ça ressemble à des mamelles. Il est devenu le symbole de la ville de Tokyo en 1989 pour l'idée de résistance qu'il évoque. Et pour finir, sa feuille est à l'origine d'un très beau symbole. Sa forme bilobée, c'est-à-dire en deux lobes, rappelle les ailes d'un papillon. Et cet insecte représente l'immortalité en Chine et l'âme au Japon. Donc nous venons d'entendre un extrait de la bande originale du film « Mémoire d'une geisha ». Et maintenant, Aurélie va nous parler de tous les bienfaits médicinaux de la renouée et du junko. Et vous allez voir qu'ils sont nombreux.
Nous allons commencer par la renouée du Japon. Il faut savoir qu'au Japon, son pays d'origine, la racine donne un remède appelé « itodari-kon » qui signifie « racine du bien-être ». Chez nous, nous avons aussi une renouée qui est endémique, la renouée des oiseaux, qui est également médicinale, diurétique, tout comme la renouée du Japon. Comme on l'a vu, cette plante a une formidable force de vie, avec une grande capacité de pousse ou de régénération, et son potentiel vital en fait une super plante médicinale. Et tout comme elle a une action dépolluante et drainante pour l'environnement, elle a une action similaire sur le corps humain. Elle est aussi diurétique et drainante. Elle a des vertus hypolémiantes, ça c'est-à-dire qu'elle est dégraissante, donc elle serait recommandée pour aider à la perte de poids. Ses vertus diurétiques et nettoyantes sont intéressantes aussi dans le cas de douleurs articulaires. Elle est anti-inflammatoire et permet de soulager les douleurs. Pour cette indication, on prendra 9 à 15 g de racines séchées quotidiennement, par voie orale, en gélule ou en poudre dans un verre d'eau. En aidant l'organisme à se nettoyer, elle aide le système immunitaire. C'est pourquoi la renouée du Japon est souvent conseillée aux personnes fatiguées ou touchées par la maladie de Lyme. Elle est intéressante pour sa forte concentration en resvératrol, très efficace pour booster le système immunitaire. Elle agit un peu comme de la vitamine C. Elle est intéressante du coup en préventif, en cure l'hiver, pour renforcer le système immunitaire et éviter de tomber malade.
De nos jours, la renouée du Japon est très appréciée des laboratoires pharmaceutiques. Car, comme on l'a vu, elle est très riche en resvératrol, un polyphénol que l'on trouve aussi dans le raisin, les mûres ou les cacahuètes.
Ce composant anti-inflammatoire et antioxydant est considéré comme un élément protecteur majeur contre les pathologies cardiovasculaires. La médecine chinoise en fait l'usage depuis des siècles pour ses qualités justement antioxydantes.
Et la renouée en contient 100 fois plus que le raisin.
Pour cette indication, donc, on peut prendre de la poudre de racine ou de la teinture. Pour le dosage de la poudre, il est recommandé de prendre une cuillère à café 3 fois par jour, qu'il est possible de mélanger à du yaourt, de l'eau ou un jus de fruits. Pour la teinture, c'est plutôt 15 gouttes 3 fois par jour. Et donc, pour ces cures, ne pas dépasser 4 semaines sans faire de pause. Et il est plutôt recommandé de commencer par un dosage progressif. La renouée a aussi des propriétés antivirales. D'après une étude universitaire de Taïwan en 2015, deux composés actifs de la renouée, le resvératrol qu'on a vu et l'hémodine, permettent d'atténuer la réplication virale dans les cellules pulmonaires. C'est donc très intéressant en cas de grippe. Elle a prouvé son efficacité contre la grippe A.
Et malheureusement, il n'y a pas encore d'études de son efficacité contre le Covid, par exemple.
Elle a par contre aussi des vertus anticryptogamiques, tout comme le font les métaux lourds, elle les combat. On peut l'utiliser dans toutes les infections dues à un champignon, par exemple un pied d'athlète ou une dermatose de la peau.
Alors les Asiatiques utilisent les feuilles de la plante pour en faire des décoctions ou des infusions qu'ils consomment en cure. Donc c'est le moyen de consommation le plus répandu là-bas, car on la trouve facilement. Dans certaines régions d'Asie, les feuilles sont aussi utilisées pour fabriquer un élixir censé redonner de l'énergie et de la vitalité aux enfants et aux personnes âgées.
Et en externe, les jeunes feuilles peuvent être broyées fraîches et appliquées pour stopper les saignements, calmer la douleur et la cicatrisation des brûlures. En Europe, la renouée du Japon entre aussi dans la composition de certaines crèmes à usage cosmétique, notamment contre les taches de vieillesse. Elle possède encore de nombreuses autres vertus, mais je n'ai pas le temps de vous les détailler ici. Mais sachez qu'elle est aussi digestive, antipurétique, c'est-à-dire qu'elle fait diminuer la fièvre, hypotensive, antidiarrhéique et antileucorée, donc elle diminue les pertes vaginales. Pour les recommandations, il faut faire attention à ne pas consommer des doses élevées de renouée. Parfois, elle peut avoir une action coagulante, donc elle est déconseillée en cas de prise d'anticoagulants, en cas de grossesse ou d'allaitement, mais aussi avant des interventions chirurgicales. Maintenant, passons au ginkgo. Elle aussi est une super plante médicinale. On utilise principalement les feuilles qui doivent être récoltées à l'automne, juste avant qu'elles ne commencent à jaunir. Car c'est à cette période que les feuilles seraient le plus concentrées en flavonoïdes, un composé actif antioxydant. Donc c'est une plante très intéressante pour aider à la mémoire à court terme, mais aussi à long terme. Elle agit en augmentant le flux sanguin au niveau du cerveau et sur la qualité des parois veineuses, qui peuvent s'abîmer avec l'âge ou la pollution. Elle a aussi une action sur les neurotransmetteurs, hormones en charge de la transmission d'informations. Grâce au ginkgo, les informations vers le cerveau circulent mieux. On peut donc proposer cette plante aux personnes âgées atteintes d'Alzheimer, mais aussi après un choc à la tête, avec perte de mémoire, perte de la vue ou de l'audition, même en cas d'acouphène causé par une mauvaise circulation sanguine. Et comme elle améliore la circulation sanguine vers les extrémités, elle peut aussi aider en cas de syndrome de Raynaud ou d'engelure. On prendra la plante plutôt sous forme de teinture, c'est-à-dire les feuilles macérées dans de l'alcool à raison de 50 gouttes matin et soir. Pour les précautions d'emploi, on ne la prendra pas en même temps que des coagulants, ni avant une intervention chirurgicale.
Alors, le meilleur moyen de se débarrasser de la renouée du Japon est de la manger. Et oui, en effet, elle est très réputée au Japon pour ses qualités culinaires et ils en mangent énormément. Donc, pour goûter sa saveur acidulée et rafraîchissante, il faut la cueillir très jeune au printemps. Les tiges sont consommées crues ou cuites comme de la rhubarbe ou des asperges. Il faut quand même les peler avant de les faire cuire. Les racines sont consommées seulement cuites après macération dans l'eau. Alors attention pour tout ce qui est tiges et feuilles, elle contient de l'acide oxalique, donc il est déconseillé d'en manger trop fréquemment, surtout pour les personnes ayant des problèmes rénaux et biliaires.
Les graines du ginkgo, elles se consomment aussi, mais il faut le mériter, parce que ça demande pas mal de travail et il existe des recettes qu'on vous invite à aller voir sur Internet pour apprendre à les cuisiner. Attention quand même, parce qu'il ne faut pas en abuser non plus, maximum 10 par semaine.
Nous espérons que nous avons réussi à vous montrer que ces deux plantes sont extraordinaires à bien des niveaux et qu'on peut apprendre à vivre en harmonie avec elles. Nous remercions toutes les mauvaises graines qui ont participé et permis la réalisation de cette émission.
Nous nous retrouvons le mois prochain, le 13 février, pour un nouveau dossier sulfureux sur un quatuor de belles plantes vénéneuses.
Magnifique! N'oublie pas de visiter notre page Instagram de Mauvaises Graines pour nous laisser messages et commentaires sur les émissions, ça nous fait toujours plaisir, et suivre nos actualités.
Et vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site JetFM et sur Spotify. À bientôt.
Au revoir.